Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, je vous propose une rencontre qui risque de vous surprendre, de vous intriguer, de vous déranger, de vous choquer peut-être. En réalité, mon invité est une romancière. Elle est là avec nous et je la remercie puisque elle nous reçoit chez elle, dans un lieu, tout ce qu'il y a de plus rangé. Mais derrière elle se cache une autre femme, enfin une femme, pas seulement. C'est aussi un homme de lettres, comme elle aime à se définir. Dans une ambiance de haute intensité littéraire, une ambiance enfumée et qui sent le stupre et le soufre, nous sommes plongés dans cette deuxième partie du XIXe siècle où le mot « décadent » désigne à la fois ce qu'il y a de plus scabreux, de plus ignoble, de plus violent, mais aussi de plus attirant. Bonsoir Cécile Chabot.
Bonsoir Claude.
Est-ce que cette présentation vous convient ?
Oh, c'est parfait. On ne peut pas mieux dire.
Merci de nous recevoir chez vous et de nous faire découvrir ce personnage si particulier de la vie littéraire dans ce beau roman « Rachilde, homme de lettres », paru aux éditions Écriture. Donc dans ce roman, vous nous faites rencontrer de très nombreux auteurs, mais aussi, pas que des auteurs d'ailleurs. On trouve Zola, on trouve Victor Hugo, on trouve Maupassant, en pêle-mêle on a Sade aussi, Voltaire, Barbey d'Aurevilly, Colette, et puis aussi Sarah Bernhardt et d'autres encore. Mais vous, Cécile Chabot, comment avez-vous rencontré Rachilde et qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme ? Elle est encore une femme.
Alors j'ai entendu le nom de Rachilde dans la bouche d'Abnous Chalmani qui présentait une série de chroniques qu'elle allait faire sur les féministes d'avant 1968.
Et dites-nous qui est celle, parce que je crois que c'est une femme importante, Abnous Chalmani. Elle est tyrannienne.
Oui, elle est tyrannienne, elle est journaliste, c'est une féministe, ce que je pourrais qualifier d'une féministe éclairée, voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a plusieurs féministes.
On en reparlera.
Oui, oui, plusieurs féminismes, et effectivement, elle fait partie pour moi des féministes qu'il faut suivre, qu'il faut écouter, elle est posée, elle est intelligente, elle est cultivée, voilà. Et donc c'est vraiment un personnage que j'admire beaucoup. Et quand elle a égrené le nom de ces féministes pionnières, eh bien j'ai entendu le nom de Rachilde. Et bon, je connais quand même pas mal de personnages historiques, mais alors ce mot de Rachilde m'a vraiment interpellée parce que je connaissais pas du tout. Donc évidemment, ça a attisé ma curiosité et j'ai voulu aller creuser et je n'ai rien trouvé. Voilà, donc c'est évidemment, ça a été ma première rencontre avec Rachilde, ça a été rien du tout. Donc je me dis que tout était à faire.
Ce rien du tout, vous avez creusé encore un petit peu plus et vous avez quand même trouvé un personnage qui vous a marqué. Comment vous avez été attiré et quand même, dites-nous quelques mots quand même de cette rencontre très particulière.
Alors, bon, déjà, vraiment ce que je veux préciser d'abord, c'est que je ne suis pas une spécialiste universitaire de Rachilde. Donc, je parle en toute humilité d'un personnage que j'ai rencontré, dont j'ai essayé de rassembler les éléments biographiques et autobiographiques le mieux possible, parce que j'aime coller à la réalité, j'aime être documentée, et puis les trous qu'il y avait, j'ai essayé de les combler au mieux avec mon imagination. Donc, je précise d'abord que j'ai travaillé avec l'excellente biographie, la seule biographie qui existe sur Rachid, la biographie de Claude Dauphiné, et puis sur les quelques éléments, les rares éléments autobiographiques de Rachid elle-même, c'est-à-dire la préface de Amor, Les Rajac, et surtout le livre qui s'appelle Quand j'étais jeune, que j'ai dû commander, acheter à la Bibliothèque nationale de France, parce qu'il n'est évidemment pas republié.
Rachid elle-même a une carrière littéraire, je dirais, très longue, mais qui a assez mal commencé. Sur votre livre, Rachid, homme de lettres, en couverture, on a une photo de Rachid elle-même en 1885. Est-ce que vous pourriez nous décrire, avant qu'on passe à tout ce qu'il y a de sulfureux chez elle, nous décrire cette photo et la femme qui est dessus?
Oui, ah bah alors, je voulais effectivement qu'il y ait une photo de Rachid. Il n'en existe pas beaucoup et il existe surtout soit des photos, soit des caricatures d'elle, mais plutôt dans sa deuxième partie de vie. Elle a vécu très longtemps, elle a vécu jusqu'à 93 ans. Et donc, il y a beaucoup de photos d'elle âgée. Et évidemment, moi, je me concentre sur sa première vie, en fait, depuis son enfance jusqu'à la réédition de Monsieur Vénus, jusqu'en 1889, et donc il me fallait une photo d'elle jeune. Et donc à ma connaissance, il y en avait trois. Il y en avait une où elle est très très jeune, mais que j'ai découverte plus tard. Mais de toute façon, elle ne regarde pas l'objectif, donc ça ne convenait pas. Il y en a une où elle est de profil, elle est en costume d'homme, elle a obtenu son permis de travestissement par la préfecture. Mais là, c'est pareil, elle est de profil, donc ça convenait pas. Et enfin, la fameuse photo qui a été retenue pour la couverture de mon roman. Et là, on y voit une jeune fille avec un grain de beauté sur le coin de l'œil, un accroche-cœur, et puis elle s'appuie à une chaise en forme de harpe. C'est une photo qui est très poétique. Voilà, et évidemment, ce qui est intéressant et qui interroge, c'est qu'on voit cette jeune femme avec son petit chignon, sa petite robe, et que le titre du roman, c'est Rachid, homme de lettres. Voilà.
Alors, nous allons y venir, à Rachid, homme de lettres, mais vous avez parlé de son enfance. C'est vrai qu'elle naît en 1860, elle naît dans un petit village du Périgord à Croix. Elle naît dans une famille un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui sont ses parents et peut-être même ses grands-parents? Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu cette histoire de Gabriel Joseph et de leurs parents?
Oui, donc au début de mon livre, effectivement, Gabriel vit avec sa mère, puis avec son père qui va revenir de la guerre, c'est un militaire. Tous les deux déplorent de ne pas avoir eu un garçon. Donc il y a Marguerite va se construire dans ce désamour de ses parents, et puis elle voit tous les vendredis ses grands-parents qui viennent la visiter pour très à la mode à l'époque des séances de spiritisme.
Est-ce que ça a justement une certaine importance pour elle, ces séances, enfin, j'entends pour Marguerite et qui deviendra Rachid?
Oui, au début du roman, elle est Marguerite Emery, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Et Marguerite Emery ne lui convient pas. Marguerite Emery n'est pas aimée par sa mère, n'est pas aimée par son père. Donc il va falloir qu'elle se crée un nouveau personnage, elle le comprend très vite. Et durant une séance de spiritisme, elle va prétendre qu'elle est habitée par l'âme, par l'esprit d'un noble de la Renaissance qui s'appelle Rachid. Voilà, et elle va par la suite choisir ce pseudonyme de Rachid. Elle sera désormais Rachid. Marguerite Emery ne lui a apporté que des déconvenues. Elle l'a fait mourir, d'une certaine façon.
Il y a tout dans le roman, dans le début du roman, de quoi alimenter plusieurs séances de psychanalyse, hein, puisque toutes les névroses familiales y sont, la domination, la violence, et puis l'affection, le désir un peu curieux, un peu sous-entendu.
Oui, alors là, bon, évidemment... Pour le coup, c'est quand même... J'avais très, très peu d'éléments sur les débuts en Périgord. Donc, il a fallu que je comble. Donc, c'est peut-être aussi un peu mes névroses à moi. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai fait avec ma connaissance et puis mon ressenti des fêlures qu'il peut y avoir dans une famille, évidemment.
Alors, très, très jeune, elle ne se sent pas exister, Marguerite. Vraiment. Elle hésite sur qui elle est, ce qu'elle est. Et c'est assez curieux parce que ses cheveux ont l'air de compter beaucoup pour elle.
Oui, cette histoire, bon, naturellement, j'ai inventé cette histoire au début de l'œuvre, quand elle décide de se raser la tête. C'est un clin d'œil aux cheveux qu'elle se coupera par la suite, plus tard. Là, pour le coup, c'est pas une légende. Mais il y a ce problème. Elle a très vite compris que, elle n'était pas aimée en tant que fille. Donc il y a toujours ce problème du genre qui va la poursuivre toute sa vie. Par la suite, plus tard, quand elle va se poser entre guillemets et qu'elle va trouver l'amour en la personne d'Alfred Valette, elle fera repousser ses cheveux. Mais vraiment, pour elle, quand on se coupe les cheveux, on se révolte. Voilà.
Elle vit dans un imaginaire permanent. Enfin, elle doit être tellement malheureuse qu'elle se sent obligée d'aller vivre une autre vie. Et c'est ça qui va peut-être être le ressort de son existence, non ?
Oui, j'ai vraiment voulu accentuer le fait qu'elle est... Rachilde, c'est une femme de l'imaginaire, c'est une femme de l'imagination. Tous ces romans qui sont fondés sur voilà l'inceste, la nécrophilie, la zoophilie, le sadisme, tout ça, c'est une littérature du fantasme. Rachilde craint la chair, et plus elle avance dans sa vie, et plus elle est pleine de principes. Hein. C'est pas du tout... Elle n'est pas du tout en accord avec ce qu'elle écrit. Hein. Donc elle fait fantasmer, évidemment, parce que les hommes voyant cette vierge écrire sur la confusion des genres, ils n'en peuvent plus. Mais Rachilde n'est pas du tout comme ça. Hein. Elle a des amis, mais elle a peu d'amants. Alors effectivement, elle s'essaye. Elle va avoir une maîtresse en la personne de Marie-Paul Courbe. C'est pas une femme qui aime la... C'est pas une nymphomane, elle n'est pas érotomane, pas du tout.
Mais cette imagination puissante qui l'habite, en quelque sorte, elle est provoquée par des lectures, et ça, c'est quand même très étrange. Là, on trouve les germes de l'écrivain, de l'écrivaine qu'on va trouver plus tard.
Ah bah oui, ça c'est bien quelque chose que je vais m'empresser, je le dis toujours, mais je vais m'empresser de le redire à mes élèves. Hein. Voilà comment on se construit, voilà comment on invente des mondes entiers. Rachilde a été très jeune, étant livrée à elle-même, a été une lectrice, a commencé par lire donc Voltaire, Sade, Elle était toute seule dans l'énorme bibliothèque familiale et elle s'est construite comme ça, de ses lectures.
Lire Sade à 10 ou 12 ans, c'est pas commun.
Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, elle comprenait pas et puis elle l'a relu. Et elle a toujours été une lectrice acharnée. Quand elle est devenue la patronne du Mercure de France et qu'elle chroniquait les auteurs naissants du début du XXe siècle, elle était connue pour absolument lire tous les manuscrits qu'elle recevait. Elle recevait tout. Elle recevait des manuscrits et puis bon, elle aurait pu en mettre quelques-uns de côté. Non, elle lisait tout. Et c'est pour ça que même les petits écrivains qui avaient un espoir, au moins ils savaient qu'ils étaient lus par Rachilde. Voilà.
On va continuer cette découverte petit à petit, hein, et ça va devenir de plus en plus sulfureux, je vous le promets. On va écouter votre premier choix musical. C'est un choix que j'ai, dont j'ai envie de vous demander pour quelle raison vous l'avez précisément choisi. Il s'agit de Björk, Venus is a Bay is a Boy.
Oui, écoutez, donc je sais qu'il va y avoir trois périodes musicales, donc sachant que j'aime beaucoup de choses, je me suis dit on va essayer de coller au thème, et la première chanson que j'ai choisie, c'est effectivement cette chanson de Björk. J'écoutais beaucoup Björk quand j'étais jeune, et évidemment c'est celle-là qui m'est venue à l'esprit tout de suite, parce que elle décrit voilà la sensibilité de l'homme et son identification à Vénus à partir du moment où il devient, où il a des caractéristiques féminines, enfin dites féminines.
Go!
Voilà, après Björk, nous revenons sur notre entretien avec Cécile Chabot. Vous êtes bien entendu sur IDFM avec Claude Lévy dans cette émission Entre Chien et Loup. À l'occasion de donc la parution de ce livre Rachilde, homme de lettres aux éditions Écriture. C'est toujours difficile d'être une femme, d'être une fille, mais à cette époque-là, c'était encore plus difficile. On est dans les années 1870 et Marguerite vit des moments très difficiles avec ses parents. Elle vit de la violence et elle ne supporte pas tout ça. Elle-même subira de la violence. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de ça, Cécile Chabot ?
Oui, j'ai entendu une interview de Rachilde dans ses vieilles années et elle relatait ce qui avait l'air effectivement d'être un cauchemar, le cauchemar du noyer. Et donc elle expliquait qu'elle avait vu, alors je vais pas tout relater évidemment, mais qu'elle avait vu un noyer sortir de la mare du domaine du Croc et lui dire « tu ne parleras jamais, jamais ». Voilà, et j'avais été déjà très intriguée par l'histoire de ce cauchemar. Et par la suite, j'ai trouvé une théorie assez, enfin, qui m'a interrogée, une théorie selon laquelle peut-être l'évocation de ce cauchemar était en définitive une manière un peu cachée, un peu pudique de raconter qu'elle avait probablement été violentée, malmenée près de cette mare. Donc il a fallu que je trouve une façon vraiment dans la suggestion et vraiment sans rien affirmer qu'elle avait peut-être, alors qu'effectivement c'était peut-être un cauchemar, mais que peut-être elle avait été violée.
Et c'est fait avec énormément de délicatesse et de poésie presque, je dirais. Elle a 15 ans lorsque son père, la voyant aussi déprimée, enfin il y a quelque chose de l'ordre de c'est ça. Elle traîne une sorte de spleen qui est très très fréquent à l'époque, hein, bien sûr. Mais son père, qui est militaire, qui revient de la guerre de 70. Qui n'est pas un personnage des plus sympas, mais elle l'aime bien, elle aime beaucoup, elle admire beaucoup son père. Et à un moment, il a un geste envers elle qui est extrêmement dur. Rappelez-nous ce petit épisode.
Oui, elle se précipite vers lui et il l'écarte avec sa cravache. Elle en reparle souvent. Ce geste où il... Oui, il l'écarte. Ça, voilà, c'est vraiment un geste pas d'abandon, mais de rejet qui est très puissant. Et elle en reparle plusieurs fois dans le roman. Voilà. Et effectivement, vous avez raison de dire que la vie n'est pas facile pour les femmes de l'époque. Les filles passent de la tutelle de leur père à la tutelle d'un mari. Et ça, c'est évidemment insupportable pour Rachilde. Rachilde ne veut pas se marier et elle préférera tenter de se suicider dans cette fameuse mare. La mare a une portée symbolique très très importante.
Oui, elle tente en effet de finir sa vie noyée, plusieurs fois d'ailleurs dans le roman. On est à la campagne, on est... dans le Périgord, et depuis des siècles, dans toutes les campagnes, les gens aiment la chasse. Et Marguerite aime beaucoup les chevaux. Elle adore son cheval qui s'appelle Sleipnir, et elle aime aussi beaucoup les animaux. Et elle admire évidemment son père, qui est un grand militaire, un chasseur et tout ça. Et un jour, elle part à la chasse, elle est invitée à la chasse, et j'aimerais lire un court passage de ce départ au matin à la chasse. Le lendemain, Joseph, levé à l'aube, se prépara pour la chasse. À l'idée d'affronter les loups, il retrouvait sa splendide stature énergique de veneur émérite. Il avait pris ses bottes de cuir et surtout sa dague à poignée d'argent. Sa meute, une des plus belles de la région, était composée de 10 braques, hauts de taille, le rein harpé. Un piqueur et 2 valets de limier à pied les dirigeaient. Marguerite, vêtue d'une redingote et d'un pantalon à sous-pieds, coiffée d'un feutre tyrolien, montait Sleipnir. Elle n'accompagnait pas pour s'attirer l'attention de son père, mais parce qu'elle gardait au fond de son cœur la conviction profonde que les loups étaient ses frères. Elle n'eût pas voulu les laisser seuls dans l'épreuve de cette chasse. Voilà un de ces très beaux textes de votre livre sur Rachille dans son enfance. Elle découvre cette partie de chasse. Comment se fait, vers 17 ans, son entrée dans le milieu littéraire parisien? Est-ce que vous... elle ose faire quelque chose. Elle ose envoyer un mot à un homme de premier plan, s'il en est. Comment ça se passe?
Alors évidemment, donc l'homme de premier plan en question, c'est Victor Hugo. Elle aurait pu demander l'avis de n'importe qui, mais non. Victor Hugo est vraiment son idole. Hein. C'est son idole. Elle lui envoie donc un de ses manuscrits, et Victor Hugo fait ce qu'il devait faire à tous les petits scribouillards de l'époque, à savoir renvoyer un billet en disant avec quelques mots. Et alors je ne sais plus exactement les mots qu'il emploie, mais c'est compliment mademoiselle, oui. Ou applaudissement, continuez. Bon. Et alors là, c'est vraiment la révélation, c'est le déclic. À partir de ce moment-là, sur ces mots de Victor Hugo, Rachilde ne se pose plus la question, elle va monter à Paris. Voilà. Et elle sait qu'elle va devoir publier et se faire connaître en tant qu'écrivain, enfin, en tant qu'homme de lettres. Mais ça,
homme de lettres, puisque en fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle lit un texte plus ou moins de la Renaissance, du XVIIe siècle, où il est question d'un grand voyageur suédois qui s'appelle précisément Rachilde, hein, et c'est de là qu'elle tire son nom.
Oui, oui, voilà. Là, c'est pareil. Dans ce chapitre, j'ai essayé de laisser le doute. Voilà, est-ce qu'elle est vraiment possédée? Est-ce que c'est une blague de sa part? Évidemment, donc je laisse le choix au lecteur. Mais à la fin, effectivement, elle va brûler un manuscrit de ce fameux Rachilde. Qui est parti dans une expédition avec Jean de Léry. Donc on la voit brûler le livre. Alors évidemment, on est en droit de se dire, est-ce qu'elle a vraiment été possédée ou est-ce qu'elle a tout piqué à ce fameux Rachilde qui raconte son voyage?
Il s'avère qu'elle est quand même très douée pour l'écriture, hein. Elle a 17 ans, son père a essayé de la marier, ça a pas du tout marché, mais sa mère, qui est un peu déséquilibrée mentalement, on peut le dire, on le verra juste à la fin, voit quand même que sa fille est une vraie écrivain, est une vraie écrivaine, et elle en avait marre aussi de son mari, et elle propose à sa fille de l'emmener et de partir toutes les deux à Paris, là où elle a des amis, et j'aimerais que vous nous lisiez, Cécile, ce texte de leur arrivée à Paris,
voilà. Oui, effectivement, Gabrielle, la mère de Marguerite, la mère de Rachilde, a toujours eu des velléités d'artiste. Elle est pianiste elle-même. Elle aurait aimé être une coquette mondaine, et elle est évidemment ravie de voir que, enfin, elle est un peu jalouse évidemment, mais elle se dit. Elle voit que c'est une opportunité de monter à Paris pour sa fille, mais peut-être aussi pour elle. Donc elle est très contente de cela.
Voilà, lisez ce court texte.
Quelques heures plus tard, on entra en gare d'Orléans-Austerlitz. La grande verrière formait un puits de lumière, tandis que la halle métallique emprisonnait les fumées noires des machines. Dans ce brouillard artificiel, bruissait la rumeur confuse et bigarrée des voyageurs pressés, allant et venant. Chefs de gare, aiguilleurs et employés réglaient la danse de cette ruche moderne. Rachilde se laissait pénétrer par le capharnaüm des coups de sifflet, de trompe, du souffle des locomotives, du choc des wagons, du grondement des rails. Elle humait avec bonheur l'odeur âcre de la capitale, cette odeur malsaine et magnifique que les plus grands poètes avaient psalmodiée. Le Périgord lui semblait désormais bien loin. Lorsqu'elle monta dans l'omnibus, harassée, elle ne put s'empêcher de sourire, du sourire de loup qu'elle avait arboré quelques années auparavant, devant la Psyché de sa mère.
Très beau texte. Qu'est-ce qu'elles vont trouver à Paris? Il se trouve que Gabrielle, sa mère, a quelques amies, alors les unes plutôt intéressantes, les autres assez redoutables.
Oui, Gabrielle a eu notamment une cousine. Bon, là, j'ai un peu transformé la réalité, hein, mais elle a une cousine, ça c'est vrai, une cousine qui travaille à la revue des modes, il y avait des magazines de mode à l'époque, et Madame de Saverny a donc cette publication régulière dans laquelle Rachilde va commencer par travailler. Et ça va lui ouvrir les premières petites portes de la vie parisienne, voilà. Et donc j'ai inventé la rencontre avec Villiers. En revanche, la rencontre avec Victor Hugo.
On va y venir. La rencontre avec Victor Hugo et avec l'entremise de Villiers de l'Isle-Adam. Mais auparavant, j'aimerais qu'on écoute encore un peu de musique. C'est votre deuxième choix musical parce que il est très très étonnant, extrêmement subtil. Il s'agit de Anthony and Johnson avec un titre qui vous plaît bien, non?
Oui, alors donc c'est Man Is the Baby. Moi j'avais découvert cet album à l'époque. J'avais été vraiment happée par la couverture de l'album on y voit donc Candy Darling qui est sur son lit de mort en 1974. Candy Darling, c'est une actrice américaine transgenre, voilà. Et je donc évidemment, là, ça, je me suis dit que ça pouvait tout à fait correspondre, ça pouvait être un choix musical intéressant. Et au-delà de ça, le morceau qu'on s'apprête à écouter est vraiment un morceau, je trouve, un morceau de la déchéance, un morceau du déclin, un morceau très crépusculaire, et avec la voix du chanteur qui est absolument délicieuse, merveilleuse.
Man is a Baby par Anthony and Johnson.
Yearning for more than a blue day, I welcome your new life for me. Burning for the true day, I enter your new life for me. Forgive me, let live me, set my spirit free. Forgive me, let live me, set my spirit free. Hollow triumph of dream. Forgive me, let live me, kiss my falling knee. Forgive me, let live me, bless my destiny. Thank you.
Voilà, après ce très beau morceau, vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission Entre chiens et loups en compagnie de Cécile Chabot qui nous raconte la vie agitée de Rachil, cet auteur avec ou sans E, une femme de lettres qui, pour se faire reconnaître dans le milieu littéraire, on le voit, difficile du 19e siècle, se fait homme et écrivain sulfureux. Qu'écrit-elle vraiment et quel effet cela produit dans le monde littéraire, cette Rachil de Cécile Chabot?
Elle commence par écrire un roman, hein, on va parler de Monsieur Vénus, mais elle commence par écrire Monsieur de la Nouveauté, qui, comme je le dis dans mon roman, est un four, hein, ça marche pas du tout. Donc elle s'imagine qu'en racontant la vie d'un commis dans un grand magasin, ça va passionner les foules, absolument pas, ça marche pas du tout. Et donc, je vais pas raconter tout, mais effectivement, on en arrive à Monsieur Vénus, qui est un roman qu'elle doit écrire un peu dans l'urgence, parce qu'elle a plus d'argent. Et elle se dit, voilà, maintenant, il faut qu'on publie. Et puis, je vais dire les choses un peu, de façon un peu moderne, mais elle avait absolument envie de faire le buzz. Donc, elle s'est dit, voilà, il faut que je scandalise, il faut que je provoque. Qu'est-ce que je vais faire? Et elle bouleverse complètement le roman d'amour traditionnel. Elle écrit le roman d'une femme fatale qui va dominer et humilier à la mort un petit fleuriste. Voilà.
Alors, on va découvrir ce que c'est que Monsieur Vénus, à deux titres d'ailleurs, d'une part pour son roman et d'autre part avec une chanson de Juliette que vous avez choisie également. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne à la rencontre avec Victor Hugo, parce qu'il y a bien eu une rencontre avec Victor Hugo. C'était fait de façon un petit peu moche avec la manipulation de Catulle Mendès. Ce bref épisode, Cécile Chabot.
Oui. Alors, ça, je ne l'ai pas inventé, effectivement. Au fil de mes recherches, j'ai effectivement trouvé. Elle parle de cet épisode qui a dû du coup forcément la traumatiser puisqu'elle en parle. Elle a été humiliée. Elle se retrouve devant l'écrivain de ses rêves, hein, devant Victor Hugo. Alors elle a mis sa plus belle robe, elle a mis son plus beau manteau. Elle se sent complètement godiche devant ce monstre sacré de la littérature. Elle est dans la même pièce que Catulle Mendès et qu'un homme qui s'appelle Brifaut, et nous ont bien voulu l'introduire devant Victor Hugo. Et ils lui ont fait une blague, ils se sont moqués d'elle et ils lui disent, voilà, devant Victor Hugo, il faudra que vous tombiez à genoux. Tout le monde fait comme ça, hommes et femmes, c'est comme ça. Et évidemment, elle le fait et elle se rend ridicule. Victor Hugo se met à tout sauter et à rire en disant, mais mademoiselle, ils se sont moqués de vous. Voilà. Et elle se sent humiliée et très vexée.
Voilà, tout ça est raconté avec beaucoup de délicatesse dans le roman. Il se trouve que la vie littéraire, est, évidemment, à ce moment-là, est très masculine. Mais il y a la pointe d'un féminisme chez Rachil, qui n'est pas un féminisme militant. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce féminisme particulier de Rachil?
Oui, alors c'est très très important de dire que Rachil ne milite pas. Rachil, c'est un personnage qui est dans la création de romans dandy, de romans de création de soi. Elle a besoin de se retrouver. J'ai expliqué qu'elle avait de nombreux traumatismes. Ce n'est pas une femme qui va militer. Elle vit dans une époque où plein d'associations féministes commencent à fleurir. Ce n'est pas son combat. Elle œuvre pour elle. Elle œuvre pour avancer, mais elle ne sera jamais une féministe. Elle ira même jusqu'à écrire un manifeste expliquant pourquoi elle n'est pas féministe et pourquoi elle déteste les féministes.
Donc, est-ce qu'elle s'y retrouverait dans un féminisme aujourd'hui?
Est-ce qu'elle serait dans une... Écoutez, moi je pense que voilà, Rachilde a, malgré elle, malgré elle, fait avancer la cause des femmes. Elle s'est quand même imposée dans un milieu exclusivement masculin. Tout était, la femme n'avait pas de place dans l'espace public. Donc il y avait des femmes qui militaient pour ça. Il y avait Georges de Perbrune qui était à la Revue des Deux Mondes. Il y avait Camille de la Ville. Il y avait Olympe Audouard. Toutes ces femmes-là qui sont complètement oubliées aujourd'hui. Rachilde les a fréquentées, hein. Mais elle travaillait pour elle. Et je lui ai inventé, parce que je voulais que ce roman ait des figures fortes de femmes, je lui ai inventé cette amitié avec Sarah Bernhardt. Bon, évidemment, elles se sont côtoyées, ça c'est une évidence, mais peut-être pas autant. Mais j'aime beaucoup le personnage de Sarah Bernhardt. Je trouve qu'elle aussi, c'est une femme extraordinaire. Donc, je leur ai inventé cette amitié.
Ouais. Vous qui êtes professeur de littérature, prof de français ou de lettres, comme on dit, en collège, qu'est-ce que vous aimeriez faire entendre du féminisme, puisque les problématiques actuelles sur le genre, etc., doivent agiter beaucoup de ces jeunes-là que vous côtoyez. Qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser comprendre de tout ça?
Non, déjà, mes élèves, je leur explique bien et ils le comprennent, que le genre grammatical n'est pas le genre comment dire, n'est pas le genre biologique, pardon, oui, voilà. Donc là, c'est une grande méconnaissance de la langue que d'affirmer ça. Donc en fait, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Voilà. Maintenant, les filles, je leur dis, voilà, les filles, qui que vous soyez, il faut que vous fassiez respecter par votre savoir et par votre ouverture d'esprit. Voilà, donc c'est mon discours, c'est mes valeurs, c'est mes valeurs de femme, de mère, de citoyenne. Voilà, le savoir, hein, lutter contre l'ignorance, et puis le respect de soi-même et des autres.
Voilà, ce qu'on appelle des vraies valeurs, si j'ose dire. Nous allons revenir à Rachilde, l'écrivain, dans son itinéraire et à son grand livre, Monsieur Vénus, dont vous avez commencé à nous dire quelques mots tout à l'heure. Mais pour nous mettre dans l'ambiance de ce livre, il se trouve que Juliette, sur un texte de Pierre-Philippe, je crois, a chanté cette chanson en référence justement à Rachilde et où il s'agit. C'est une très longue chanson. On va écouter longuement Juliette. L'histoire, c'est une femme et un homme qui changent l'un et l'autre, et on ne sait plus qui est qui, et ça se finit par quelque chose d'assez assez cruel, par un duel, et il y a en effet un mort. Mais c'est un mort symbolique, je pense, non?
Alors, la fin, c'est pas la mort, parce que Raoul de Venrande va embaumer son amant, et justement par un jeu d'automate, enfin bon, c'est la taxidermie, c'est la céroplastie, tout ça, elle va conserver son amant et l'embrasser. Voilà, il y a c'est un jeu, c'est un automate. À la fin, il est devenu l'humiliation fait qu'il est devenu un automate, c'est son jouet.
Oui, mais dans la chanson de Juliette, il y a bien un duel qui...
Ah oui, non, mais le duel, bien sûr, évidemment, le duel a lieu entre Jacques Silver et l'homme qui aime Raoul de Venrande, mais à la fin, elle garde son amant embaumé. Oui, cette chanson, elle est magnifique parce que déjà, elle est servie par la voix de Juliette qui est une voix un petit peu à la Barbara, une voix qui est grave, qui est pleine de modulation. Le texte est merveilleusement écrit, il y a une réécriture de Monsieur Vénus qui est absolument sublime. Voilà, et je trouve que c'est une saison qui meurt. Voilà, je la trouve magnifique, cette chanson.
Je viens dans cette chambre m'étendre auprès de toi, beau cadavre qui râle au gré de mes délices, douce chair embaumée et blanche comme ce lys. Avant l'amour, j'ai mis sur ton long torse froid je ne suis pas un monstre, mais une fille douce que le désir des hommes jamais n'intéressa. Je voulais être un autre, et toi vice-versa. Tu avais tout l'attrait des belles garces. Oui, Rousseau, tu l'étais dans tes roses en satin. Expert en fleurs factices, toi l'Hercule Farnèse. C'était, il m'en souvient, en l'an 93. Alors je décidais de tordre nos destins. Tu acceptas le jeu, les chapeaux, les voilettes, les bijoux, les parfums, la soie, le chinchilla, l'hôtel particulier, les bouquets de lilas, et que je devine nu, choisissant tes toilettes. Dire de nos étreintes qui puissent être entendues, réinventant l'amour, nous n'avions pas de normes. Moi l'homme et toi la femme, ce rien était énorme, et pour te prendre rien ne semblait défendu. Échangeant nos deux rôles dans notre mise en scène à toi, la bouche peinte, les seins maquillés, les longues pamoisons dans les blancs oreillers. J'avais moi la cravache et les ordres obscènes. Mais il y avait un homme qui m'aimait sans retour, un officier glorieux et droit comme une tige. Il nous surprit un soir et connut le vertige de voir comment bifurquent les chemins de l'amour. Hors de quel crime étais-je la plus coupable en somme? Celui de le tromper pour un de ses pareils, ou celui d'adorer l'équivoque merveille face aux appâts de qui il se sentait moins homme? Il exigea qu'en duel l'affront se termina, et c'est moi qu'il confia à payer nos audaces. Mais dans le petit jour, c'est toi qui pris ma place, qui pris mon habit noir, et c'est toi qu'il tua. Alors je m'en fus chez un grand taxidermiste, qui t'embauma mon cher, qui t'articula, mis des reliefs ici et des béances là, faisant de tout ton corps un rêve mécaniste. Voilà pourquoi je peux, lorsque s'enfuit le jour, m'étendre auprès de toi, ma virile amoureuse, dans le parfum qui sied phénol et tubéreuse. Et morte possédée de mon vivant amour. Qui peut me condamner? Le cœur est désordre, et rien ne le commande. Il reste obscur et muet, si d'aucuns lui demandent qui de toi ou de moi.
Voilà, à Monsieur Vénus, dit par Juliette, hein, dans cette très très belle chanson. Et nous sommes bien sûr en compagnie de Rachilde, l'auteur de Monsieur Vénus, mais l'auteur de Rachilde, homme de lettres, c'est Cécile Chabot, dans son très beau roman. Ce Monsieur Vénus, c'est le livre le plus provoquant qu'elle ait fait. Quelle était sa colère, sa hargne, et qu'est-ce qu'elle voulait faire véritablement avec ce roman?
Elle voulait faire parler d'elle. Voilà. Je crois pas que ce soit un roman de la colère. C'est pas un manifeste politique. Hein. Il a été dit par certaines que c'est un manifeste politique. Pas du tout, pas du tout. Rachilde, elle voulait qu'on s'occupe d'elle. Hein. Voilà. Comme depuis qu'elle est petite. Voilà. Elle voulait se rendre intéressante, je pense, tout simplement.
Très, très, voilà. Très bien. Alors, elle voulait se rendre intéressante. Elle y a réussi. Et il se trouve que au Chat Noir, qui était un peu le quartier général de toute la bohème montmartroise, des peintres, mais aussi des auteurs, des poètes, des écrivains, elle lit en public un extrait de Monsieur Vénus. Et j'aimerais que vous nous lisiez, vous allez vous rentrer, vous-même, Cécile, entrer dans la peau de Rachilde et dire à tous ces poètes, dont il y a Verlaine, il y a des tas de gens qui se trouvent là.
Ah oui, à l'époque, tout le monde est là. Hein. Verlaine, Aristide Briand, tout le monde. Il y a évidemment Jean Lorrain, son copain. Et donc, elle utilise le Chat Noir pour un petit peu prendre la température, pour voir comment va être reçu Monsieur Vénus. Et donc, la voilà qui se place sur une estrade et qui lit des extraits de Monsieur Vénus. Je représente ici un échantillon du féminin artiste et du féminin grande dame, une de ces créatures qui se révoltent à l'idée de perpétuer une race appauvrie ou de donner un plaisir qu'elles ne partageront pas. Eh bien, j'arrive à votre tribunal, députée par mes sœurs, pour vous déclarer que toutes nous désirons l'impossible, tant vous nous aimez mal. Le Chat Noir était silencieux comme un tombeau. Tous les yeux étaient rivés vers Rachilde, qui, habitée, emplissait le cabaret de son texte incroyable. On n'avait encore jamais entendu ça.
Voilà, ça c'est Rachilde qui parle devant ce parterre de poètes et d'écrivains qui va les scotcher, on peut dire. Hein.
Oui, oui, bah, alors elle va les scotcher et puis par la suite, ça va même aller plus loin. Hein. Des hommes se suicident pour elle, hein, en espérant qu'elle viendra se coucher sur leur corps. Là, j'ai trouvé des faits divers dans les journaux. Hein. C'est absolument extraordinaire. Pour ça, on se rend pas compte l'effet qu'elle a pu avoir sur les hommes et sur les femmes aussi, parce que les femmes défendaient à leur mari de lire Rachilde.
Alors, évidemment, c'est la provocation. Mais malheureusement, Monsieur Vénus va avoir quelques déboires dans l'édition. Hein. Elle va tellement espérer faire le buzz, comme vous disiez, mais ça n'a pas toujours marché. Elle trouve un éditeur en Belgique.
Oui, bah, un éditeur de textes pornographiques qui va trouver ça tout à fait sympathique, tout à fait dans la veine de ce qu'il publie d'habitude, hein, dans la ligne éditoriale. Malheureusement, ça n'empêchera pas la censure. Donc elle va cacher. Les livres qu'elle a, elle va les cacher. Alors bon, j'ai dit qu'elle les avait cachés chez Catulle Mendès, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, ça servait le roman.
Mais Catulle Mendès lui devait bien ça, parce que c'était un sale type. Elle rencontre par contre un grand amoureux, c'est Maurice Barrès. Maurice Barrès, hein, dont le destin n'était pas des plus reluisants par la suite. Mais à ce moment-là, c'était un très grand écrivain, et il tombe fou amoureux d'elle. Il la nomme même Mademoiselle Baudelaire.
Oui, il a écrit effectivement un article sur elle. Il y a une très belle correspondance entre eux. Hein. On voit qu'ils sont dans un amour totalement platonique. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Rachild craint la chair. Rachild est dans le fantasme. Et donc, avec Maurice Barrès, ça a été un amour de l'imaginaire. Voilà.
Elle trouve un amour plus tranquille, plus pépère, si j'ose dire, avec Alfred Valette, qui lui-même est éditeur. Et elle va se retrouver, vous nous l'avez rappelé en tout début d'émission, une sorte de lectrice-éditrice du Mercure de France, qui n'était pas la moindre maison d'édition.
Oui, exactement. Elle va se marier à Alfred Valette. Il va fonder la maison d'édition du Mercure de France et elle va contribuer vraiment énormément au succès de cette maison d'édition parce qu'elle organise tous les mardis. Alors c'était évidemment très courant à l'époque, mais tous les mardis elle organise un salon et toute la bohème artistique et décadente au début de siècle de l'époque connaîtra les salons de Rachild, les salons littéraires de Rachild. Voilà, tout le monde, les courtisanes, les poètes, les sculpteurs, tout le monde ira dans les salons de Rachild. Et ça va contribuer évidemment au succès du Mercure de France. Et on l'appelle la patronne du Mercure de France.
Votre livre, Rachild, homme de lettres, se termine sur une magnifique lettre datée d'octobre 1935, une lettre qui est adressée à l'écrivain Colette, qu'elle admirait beaucoup et avec qui elle se sentait très proche. Que dit Rachild à Colette dans cette lettre qui est extrêmement forte, puissante, émouvante? On y trouve beaucoup des facettes de la personnalité de Rachild.
Voilà, pour ce roman, je voulais une chute. Moi, j'aime beaucoup les romans à chute, hein, les nouvelles à chute. Je suis très très influencée par Maupassant. Je voulais une fin qui soit vraiment forte, et j'ai imaginé effectivement cette lettre de Rachild à Colette au moment où elle perd Alfred Valette et où elle pressent qu'elle n'aura pas la postérité à laquelle elle a toujours, qu'elle a toujours désiré. Donc elle fait un peu le bilan de sa vie, évidemment, et puis elle se demande si on parlera d'elle. Donc je fais évidemment un petit clin d'œil à tous les lecteurs qui auront découvert Rachild et qui la ressusciteront.
Eh bien, un très grand merci, Cécile Chabot, pour cette découverte étonnante et tout ce parcours d'une petite fille du Périgord qui devient une grande auteure à Paris. Merci donc pour cet entretien, pour cette découverte.
Merci à vous.
Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.